Bonjour, ici Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV. Voici un nouvel épisode de notre podcast que nous venons d'enregistrer avec Agathe Lambré et Mathieu Coache qui suivent pour nous l'Élysée, Emmanuel Macron. Nous enregistrerons cet épisode quelques heures après la publication dans Le Parisien d'un échange du président de la République avec des lecteurs où il parle notamment de son envie. Il dit notamment qu'il a très envie d'emmerder les Français qui ont choisi de ne pas se faire vacciner pour l'instant. Vous avez certainement lu cet entretien. Voici cet épisode. Nous sommes le mercredi 5 janvier, et donc à 109 jours du choix des Français au second tour de la présidentielle. Salut à tous les deux.
Salut Philippe. Salut Mathieu.
Salut Agathe.
Alors toi Agathe, tu es à l'Élysée ce matin, et Mathieu, tu es en train de travailler sur ce qui s'est passé dans cette interview du président à distance. D'abord, pour raconter une petite coulisse qui n'intéresse que nous, mais j'espère aussi quelques auditeurs, on ne savait pas que le président de la République avait fait un face au lecteur avec le Parisien. Et donc nous l'avons découvert quand ça a été mis en ligne par le Parisien, c'est-à-dire juste avant 21h hier soir. Toi, Agathe, t'étais au supermarché, toi, tu étais au restaurant.
Exactement.
Et moi, je venais de partir du bureau, je montais sur mon scooter, j'avais mon casque, et là, d'un coup, bam, il faut qu'on...
C'est vrai.
Non seulement qu'on la lise, qu'on la compile, qu'on fasse en sorte que Benjamin Duhamel du service politique qui était à l'antenne la traite. C'était toute une organisation. Merci à vous de vous être mobilisés, mais...
On l'a même lu à deux avec Agathe. Moi, j'ai lu le début, Agathe a lu la fin quand elle est rentrée de ses courses. Enfin, oui, c'était quand même une petite. Voilà. Mais c'est l'Élysée qui m'a prévenu. Moi, j'ai reçu. Ils ont été
ah,
polis.
D'accord.
Ils ont envoyé ils m'ont envoyé le lien. Je pense 10 secondes avant la publication. J'étais ravi.
D'accord.
Oui,
d'accord.
Et d'ailleurs, mais d'autres personnes, ça, même au sein de l'exécutif, l'ont appris en même temps que nous. Hein. Énormément de gens n'étaient pas au courant que cette interview allait paraître, et encore moins du contenu de cette interview.
Et donc voilà, nous avons travaillé à distance hier soir, toi Mathieu au restaurant, Agathe au supermarché, moi sur mon scooter et Benjamin Duhamel à l'antenne. Et dès 21h, on en parlait à l'antenne puisque j'ai vu que d'autres candidats ont repris très vite la manière dont BFM TV traitait tout ça. On ne va pas revenir dans le détail de l'interview parce que ceux qui nous écoutent ont probablement lu ou entendu parler de cet entretien. On est à peu près 12h, 13h après sa publication. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre? Je ne parle pas du fond de votre avis personnel, mais comme prise de parole politique, comme moment politique, qu'est-ce que ça dit d'Emmanuel Macron à quelques jours de sa déclaration de candidature? Agathe, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense que c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est totalement contre-intuitif et c'est un peu le contraire de ce qu'il a théorisé ces derniers mois. Il a tout fait pour se donner une image de président plus proche des gens, pour corriger ses aspérités. Il disait lui-même sur TF1 il y a 3 semaines qu'il avait appris de ses erreurs et qu'il avait eu une volonté en début de mandat de peut-être provoquer, de bousculer, et que justement il avait changé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait 3 semaines après? Eh bien, il bouscule et en fait, il renoue totalement avec le caractère disruptif de ses débuts. Mais peut-être aussi qu'Emmanuel Macron a besoin de retrouver ce sel-là. Il est en fin de mandat. C'est un costume qui est un peu étroit à porter. Il peut plus vraiment faire les réformes qu'il veut porter. Ça fait des mois aussi qu'il est empêché par la crise. Il a donné des interviews, on l'a vu ces derniers temps, qui n'ont pas forcément eu un retentissement exceptionnel, qui n'ont pas forcément marqué les esprits, donc on voit aussi un peu un changement de stratégie, et c'est peut-être ça qui est assez étrange, c'est que ce soit aussi limpide ce changement de ton à quelques jours d'intervalle.
Moi je sais pas, j'ai rouvert le bloc-notes de notre dernier podcast qui date du 15 décembre, je sais pas si vous vous souvenez.
Tu les gardes tous dans ta bibliothèque,
ouais,
tu les gardes
sur mon ordinateur. Alors donc je suis retombé sur des phrases. Alors, on ne fait rien bouger si on n'est pas porteur d'un respect infini pour chacun. Je me suis rendu compte que sans le vouloir, j'avais pu blesser les gens en prenant pas la bonne expression. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. On peut continuer à bousculer les choses tout en ne blessant pas. Restons unis, bienveillants, solidaires, restons du côté de la vie. Enfin, ça, ce sont des phrases du 31 décembre pour la dernière et du 15 décembre pour les précédentes. On est quand même face à un président légèrement schizophrène. Hein. C'est-à-dire qu'on parle de phrases qui ont été prononcées dans une séquence média qui avait été extrêmement travaillée par l'Élysée, par le président lui-même pour justement purger un petit peu toutes ces petites phrases, toutes ces erreurs du quinquennat. Et on est aujourd'hui, attendez, je regarde la date, mais on est le 5 janvier. Donc, c'est-à-dire qu'on est 20 jours plus tard. Donc franchement, ce que je trouve un peu inquiétant, c'est que Si on considère que cette phrase dans Le Parisien hier est le lancement un peu officieux de la campagne du président de la République, c'est-à-dire que ses équipes et lui-même n'ont rien trouvé de mieux que de rejouer le début du quinquennat pour faire campagne, un début du quinquennat qui avait lui-même été un peu absous dans cette interview à TF1 il y a 15 jours. Enfin, moi, je ne trouve pas ça d'une grande lisibilité, pour les Français. Voilà.
Je demande au président Macron le remboursement de ma soirée du 15 décembre
où
j'ai dû regarder TF1 pendant deux heures.
On avait enregistré
un podcast ce soir-là, un épisode, et on avait souligné qu'il en faisait peut-être un peu beaucoup dans la mise en scène, dans
j'avais dit que c'était insincère, mais du coup, je pense que j'avais raison. Hein, c'est-à-dire que là, on était en délit d'insincérité, puisque 20 jours plus tard, on se retrouve dans...
Ça m'a rappelé, en fait, parce que là, on entend des arguments, puisque depuis hier soir, vous avez fait aussi, on échange avec des ministres, on échange pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et ils nous donnent finalement, eux, leurs interprétations, leurs analyses. Et je me disais, par exemple, quand ils disent oui, mais au fond, c'est ce que pense la majorité des Français, ou il n'a pas tort de dire ça, alors peut-être qu'il est un peu excessif sur la forme, mais sur le fond, il a raison. En fait, on aurait pu appliquer ces arguments sur à peu près toutes les phrases si on fait polémique en début de mandat. Par exemple,
c'est exactement ce que j'allais dire.
La rue.
Moi, j'ai un souvenir hyper précis, en fait, de la réaction de l'Élysée au moment de la vidéo du pognon de dingue. On était à Montpellier. Il y avait un discours à la mutualité. Et j'avais un échange avec...
Là aussi, vidéo publiée par l'Élysée, contrôlée. Oui. C'était pas une petite phrase lâchée devant un journaliste.
Ouais. Et donc, j'avais un échange avec Sibeth Ndiaye sur Telegram, qui est la messagerie instantanée de l'Élysée. Et sincèrement, j'ai essayé de comprendre la stratégie. Pourquoi cette vulgarité pour dire quelque chose d'assez simple, finalement, que les aides sociales ne permettent pas, à leurs bénéficiaires de sortir de la pauvreté. Et elle me répond à l'époque, en substance, que les Français ont élu un président disruptif. Et c'est ce que disait Agathe au début, qui casse les codes et que c'est à eux qu'ils parlent. Mais plus tard, quand on avait reparlé des années après, elle avait concédé que ça n'avait pas fonctionné et qu'elle n'avait pas perçu à ce moment-là à quel point ça allait faire un mauvais bad buzz, et pourquoi aussi il y a des choses qu'un président finalement ne peut pas dire. Donc j'ai l'impression que on fait une boucle et qu'on est en train de revivre le début du quinquennat. C'est très bizarre.
Oui,
à ton avis, c'est... Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu as l'impression, en t'écoutant tout à l'heure, est-ce que tu as l'impression que c'était contrôlé, maîtrisé, et finalement c'est une sortie qui a été très ciblée, ou est-ce qu'au contraire, finalement c'est un dérapage contrôlé qui n'aura pas forcément de conséquences dramatiques, mais qu'il y a une part d'improvisation là-dedans?
Je pense qu'Emmanuel Macron savait très bien ce qu'il faisait et qu'il avait cette volonté de bousculer et comme dit aujourd'hui son entourage, de dire tout ce que les Français pensent tout bas, d'accentuer ce clivage aujourd'hui entre les partisans de la science, les pro-vaccins et ceux qui ne le seraient pas. C'est aussi une façon pour lui de se replacer au centre du jeu et d'exister tout simplement. Je ne sais pas si il y avait une stratégie à ce point travaillée, théorisée, mais en tout cas, il a assumé ses propos, il les a assumés, et aujourd'hui dans son entourage on l'assume totalement. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir si dans quelques semaines ou dans quelques mois, rétrospectivement, Emmanuel Macron est toujours sur la même ligne, parce que c'est vrai que ça peut rappeler d'autres...
À l'Élysée ce matin, ils sont contents à l'Élysée ce matin.
Je ne sais pas s'ils sont contents. Globalement, on essaye de ne pas apparaître trop satisfait, mais en tout cas, on assume totalement la stratégie. Et puis, on essaye d'expliquer. On dit qu'il s'adressait aux Français, qu'il ne rejette personne. Mais sauf que quand on lit une interview, c'est pas aussi clair, en fait. Parce que dire que les non-vaccinés sont des irresponsables qui ne sont plus des citoyens, ça ne fait pas vraiment président.
Ça, ils n'assument pas du tout.
Protecteur de tous les Français. Oui, mais donc c'est pour ça que c'est un peu difficile défendre certains propos. D'autres qui osent plus le dire en coulisses disent qu'ils se reconnaissent.
Moi, j'ai trouvé personne qui assumait la phrase citoyenneté.
Mais parce que là, il y a une confusion aussi qui est, et là, c'est sa faute ou sa responsabilité. C'est que quand il parle d'emmerder les Français, il parle, je pense, des non-vaccinés en général, ceux qui refusent de choisir la vaccination et donc emmerde les Français, pour reprendre son expression. Mais quand il parle de citoyens et de, enfin entre guillemets, ils sont irresponsables et donc pas citoyens, je pense que là il parle des anti-vax, ce qui n'est pas la même chose.
Du
coup il y a une confusion à la lecture générale et dans l'écho qui est donné de l'entretien entre non vaccinés emmerdeurs et anti-vax irresponsables non citoyens.
Mais d'une certaine manière,
ça risque de lui retomber dessus, ça.
Ce que je voulais dire, c'est que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, les quelques personnes à qui j'ai parlé assument le franc-parler du président sur les ces anti-pass sanitaires qu'il veut emmerder. Mais par contre, sur cette phrase autour de la citoyenneté qui ferait en fait de certains Français des non-citoyens, parce que c'est pas un raccourci de dire ça, là on sent qu'il y a un peu plus de gêne dans l'entourage du président, et on essaye de retourner un peu le truc. Non, mais il a jamais vraiment dit ça, c'est pas ça que ça veut dire. C'est assez classique, mais ça, c'est cette formule est beaucoup moins assumée que la première sur l'emmerdement.
Il y a une autre phrase qui dérange aussi un petit peu, c'est quand il dit j'ai très envie d'emmerder les Français. Enfin, c'est pas le emmerder, le très envie, qui peut faire un peu arrogant, un peu satisfait de lui-même, un peu capricieux aussi. Et ça, plusieurs personnes m'ont dit que clairement c'était de trop, quoi.
D'ailleurs, on avait dit après, c'était dans l'épisode qu'on avait enregistré dans la foulée d'émission de TF1, qu'il avait voulu purger un certain nombre de phrases, et aussi de faire cesser ce procès entre guillemets le procès en mépris de classe, arrogance, hautain, tout ça, qui a existé en début de quinquennat, qu'il a réussi d'une certaine manière à masquer, à gommer, en tout cas à s'éloigner de ces sujets-là depuis peut-être un an et demi, deux ans maintenant. Du coup, il relance ce truc-là à quelques semaines de son entrée en candidature. C'est assez curieux. Même si je ne vais pas revenir trop longtemps, parce que Agathe, tu es prise à l'Élysée rapidement, mais je voulais juste vous demander, à votre avis, est-ce que... moi, je pense, pour simplifier, que ça sert aussi à faire monter Marine Le Pen, indirectement Éric Zemmour, mais surtout Marine Le Pen, et ça permet pour lui d'étouffer Valérie Pécresse, de compliquer la situation un peu ambiguë dans laquelle se trouve Valérie Pécresse. On l'a vu dans le débat parlementaire depuis deux jours, où elle défend le pass vaccinal, se permet même de donner, entre guillemets, des leçons sur ce qu'il faudrait faire au gouvernement sur la situation sanitaire, et qui en même temps a des députés qui la soutiennent, y compris des porte-paroles de sa campagne, qui...
J'entends Philippe, mais moi je crois que c'est plus basique que ça. Franchement, c'est exactement ce que disait Agathe au début du podcast. C'est-à-dire que toutes les interviews de Macron en ce moment ne font pas de bruit. Ce sont ses adversaires qui sont sur le devant de la scène de cette campagne, et il avait besoin de faire le buzz aussi. Et pour le coup, ça, il le sait, à chaque fois qu'il prononce une phrase de ce type, ça fait le buzz, ça marche, on parle de lui. Et honnêtement, je crois que c'est pas du billard à 5 bandes. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Agathe.
Si, même si je suis aussi d'accord avec Philippe sur le clivage qui est assez pensé, je pense que c'est plus le progressiste contre nationaliste, c'est Emmanuel Macron, son discours sur le vaccin qui s'adresse aux pro-vaccins et qui s'oppose principalement à Marine Le Pen et Éric Zemmour, dans une volonté d'étouffer, totalement d'asphyxier Valérie Pécresse, qui elle a plus de mal à se faire entendre sur le sanitaire en ce moment, parce que dans le fond elle est plutôt d'accord avec Emmanuel Macron, mais elle essaie quand même de s'en distinguer parce qu'elle espère le battre. Donc je pense que ce clivage est assumé et théorisé. Maintenant, personne ne sait, je pense, au sommet de l'État, si cette stratégie va marcher ou pas. Et je pense que là, on est vraiment suspendu au sondage, et on verra dans quelques jours si cette interview produit des dégâts ou si au contraire, ça plaît aux Français. Parce que les Français peuvent aussi avoir envie d'un président qui leur parle cash, tout comme dans d'autres moments, ils veulent un monarque qui prend de la hauteur. Et je pense que ça aussi, on me disait, tout à l'heure, il y avait un proche d'Emmanuel Macron me disait, on n'est pas obligé de choisir, en fait. Il n'est pas obligé d'avoir une stratégie. Il peut aussi alterner les postures.
Un peu de cohérence, ça fait pas de mal quand même. Et c'est vrai ce que tu dis, Agathe. À l'Élysée, ils utilisent toujours la même expression. C'est on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. C'est quelque chose qu'on entend toujours depuis des années à l'Élysée. Donc à l'heure actuelle, ils ne savent pas de quel côté la pièce va tomber.
En même temps, dans tous les sondages aujourd'hui, il est qualifié au second tour. Dans presque tous les sondages, quasiment tous les sondages, il est gagnant au second tour. Si dans 100 et quelques, j'ai plus le décompte en tête, mais si dans un peu plus d'une centaine de jours, il est battu, peut-être qu'on regardera rétrospectivement cette phrase ou ces phrases dans Le Parisien comme un moment clé. C'est-à-dire que il prend, d'une certaine manière, il prend aussi le risque de casser l'état, le niveau assez haut où il était. C'est-à-dire que d'une certaine manière, en clivant, il prend le risque de fâcher un certain nombre de gens. Moi, je pense personnellement, par ailleurs, que l'essentiel de gens qui votent pour lui sont d'accord avec lui sur le côté les non-vaccinés nous emmerdent et il faut remettre de l'ordre. Je me souviens d'un ministre important qui m'avait dit après le 12 juillet, après la fois où il avait annoncé le pass sanitaire, et là aussi, c'était une surprise, ça avait été assez fort, qui m'avait dit, voilà, je suis sûr qu'Emmanuel Macron va être réélu parce que là, il a tapé du poing sur la table, il a montré qui est le chef, il a montré que c'était lui, et c'est pour ça qu'il va être réélu. Donc je sais pas, peut-être ça peut avoir cet effet-là aussi, le côté je vais vous montrer qui c'est Raoul, me faites pas chier, excusez-moi d'utiliser ce mot, mais le président dit emmerder, donc je peux dire chier. Mais il y a un côté comme ça, je tape du poing sur la table, un peu viril.
Mais ça n'a jamais marché. Hein. Depuis le début du quinquennat, chaque fois qu'il a prononcé une de ses petites phrases, ça n'a pas marché. Donc ça ne l'a pas aidé ni dans les sondages. On l'a même vu descendre, de baisser dans les sondages au moment des petites phrases sur traverser la rue. Je suis assez sceptique sur cette stratégie.
Oui, mais je pense que c'est théorisé aussi ce que tu disais, Philippe, le fait qu'il y a un besoin d'autorité. Il y a besoin, en tout cas, d'un président qui chef. Il y a besoin d'un chef, et il y a aussi un besoin de radicalité dans la société. Et ça fait depuis un moment que les macronistes le disent et le redisent pour s'opposer à Zemmour, qui lui serait pas radical. Mais brutal.
Mais tu veux dire qu'il fait du Zemmour ? Tu veux dire qu'il
fait
du Zemmour ?
Ah non, pas du tout, parce que justement, pour eux, Éric Zemmour ne fait pas de la radicalité, il fait dans la brutalité, ce qui est très différent. D'accord. En revanche, qu'il y ait une demande de radicalité, ça c'est théorisé, et Emmanuel Macron estime qu'il parle à des gens qui ont aussi envie d'entendre ce genre de discours.
Est-ce que c'est pas un doigt d'honneur symbolique au fond ce qu'il fait, ce qu'il a disait hier dans Le Parisien ? Est-ce que c'est pas un doigt d'honneur symbolique, en tout cas dans les mots, dire des Français qu'on a très envie de les emmerder ? C'est pas aussi quelque chose de très très fort, un peu comme le geste d'Éric Zemmour ?
Peut-être,
Mathieu.
Mais...
Moi, je voulais juste faire un petit pas de côté, parce que Agathe disait qu'il faut de l'autorité, que l'Élysée pense effectivement que le président doit incarner l'autorité, et c'est vrai. Mais il y a quand même un mensonge dans cette phrase, quand il dit « À partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au resto, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café. » C'est faux, en fait. Aujourd'hui, vous savez ce qu'ils font, les gens, quand ils n'ont pas de sanitaire, ils en trouvent un sur Internet, ils en font... Ils font absolument ce qu'ils veulent avec, parce que c'est un outil imparfait et invérifiable. Et j'ai encore demandé la semaine dernière à Jean Castex pourquoi il n'y avait pas, par exemple, de photos associées au pass sanitaire, au futur pass vaccinal. Aucune réponse. J'avais déjà posé la question à Gabriel Attal. Aucune réponse. Et en fait, il n'y a aucune volonté de l'exécutif aujourd'hui de renforcer l'application du pass vaccinal, qui franchement, pratiquement, on le sait très bien, ne sert à rien. Donc je trouve que ce discours du président de la République sur sa volonté d'emmerder les gens est assez hypocrite, parce que dans la pratique, le pass sanitaire, il n'emmerde personne, à part finalement ceux qui sont contraints de le vérifier tous les jours, vous voyez.
Bon, je vous laisse parce que Agathe, toi, tu vas être prise à l'Élysée. On a plein de choses à faire. J'ai une réunion là. Mais je pense que si on réécoute cet épisode le 25 avril, sur le lendemain du second tour de la présidentielle, il sera peut-être intéressant à réécouter.
Oui.
Bon, bonne journée.
Merci.
Salut Philippe. Salut Agathe. Bon courage pour le conseil des ministres, Agathe.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On en refera un autre, je pense, demain pour parler de la gauche, cette fois des rapports de force entre Yannick Jadot, Christiane Taubira, Anne Hidalgo. Y aura-t-il ou pas une primaire à gauche ? En attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur vos plateformes de téléchargement, à vous abonner et puis à faire parler de ce podcast, ce balado sur les réseaux sociaux. Merci, à demain.